Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 8, chapitre 5. Notre-Dame d'Einsiedeln, vocation de Zwingli, l'abbé, Gérold Seck, Société d'études, la Bible copiée, Zwingli et la superstition, première opposition aux erreurs, sensations, Édion, Zwingli et les légats, les honneurs de Rome, l'évêque de Constance, Samson et les indulgences, Stapfer, charité de Zwingli, ses amis, Myconius à Zurich. Un moine allemand, Meinrad de Hohenzollern, s'étant avancé vers le milieu du IXe siècle, entre le lac de Zurich et celui de Walsetten, s'était arrêté sur un monticule adossé à un amphithéâtre de sapins et y avait bâti une cellule. Des brigands trempèrent leurs mains dans le sang du saint. La cellule ensanglantée demeura longtemps déserte. Vers la fin du Xe siècle, on éleva sur ce sol sacré un couvent et une église à l'honneur de la Vierge. La veille du jour de la consécration, à minuit, l'évêque de Constance et ses prêtres étaient en prière dans l'église. Un chant céleste provenant d'êtres invisibles retentit tout à coup dans la chapelle. Ils l'écoutèrent, prosternés et dans l'admiration. Le lendemain, comme l'évêque allait consacrer la chapelle, une voix répéta à trois reprises « Arrête ! Arrête ! Dieu l'a lui-même consacré !» Christ lui-même, dit-on, l'avait béni pendant la nuit. Les chants que l'on avait entendus étaient ceux des anges, des apôtres et des saints, et la Vierge, debout sur l'autel, avait brillé comme un éclair. Une bulle du pape Léon VIII défendit aux fidèles de révoquer en doute la vérité de cette légende. Dès lors, une foule immense de pèlerins n'a cessé de se rendre à Notre-Dame des Ermites pour la consécration des anges. Delphes et Éphèse dans l'Antiquité, Lorette dans les temps modernes ont seul égalé la gloire d'Einsiedeln. C'est dans ce lieu étrange qu'Ulrich Zwingli fut appelé l'an 1516 comme prêtre et prédicateur. Zwingli n'hésita pas. « Ce n'est ni l'ambition ni la cupidité qui m'y portent, dit-il, mais les intrigues des Français. Des raisons plus élevées achevèrent de le décider. D'un côté, ayant plus de solitude, plus de calme et une paroisse moins considérable, il pourra donner plus de temps à l'étude et à la méditation. D'autre part, ce lieu de pèlerinage lui offrira la facilité de répandre jusque dans les contrées les plus lointaines la connaissance de Jésus-Christ. Les amis de la prédication évangélique à Glaris témoignèrent hautement de leur douleur. Que pourrait-il arriver de plus triste pour Glaris, dit Pierre Tschudi, l'un des citoyens les plus distingués de ce canton, que d'être privé d'un si grand homme? Ses paroissiens, le voyant inébranlable, résolurent de lui laisser le titre de pasteur de Glaris, avec une partie du bénéfice et la facilité d'y revenir quand il voudrait. Un gentilhomme issu d'une antique famille, grave, ouvert, intrépide et quelquefois un peu rude, Conrad de Rechberg était l'un des plus célèbres chasseurs des contrées où Zwingli se rendait. Il avait établi dans l'une de ses terres, le Siltal, un haras où il éleva une race de chevaux qui devint célèbre en Italie. Tel était l'abbé de Notre-Dame des Ermites. Rechberg avait également horreur des prétentions de Rome et des discussions des théologiens. Un jour que, dans une visite de l'ordre, on lui faisait quelques remarques, « Je suis maître ici et non pas vous, dit-il un peu brusquement. Passez votre chemin. » Un autre jour, comme Léon Judas discutait à table avec l'administrateur du couvent sur des questions difficiles, l'abbé chasseur s'écria, « Laissez-moi là vos disputes. Je m'écris avec David. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, et n'entre pas en jugement avec ton serviteur, et je n'ai pas besoin de savoir autre chose. » Le baron Théobald de Gérold Steck était administrateur du monastère. Il avait un esprit doux, une piété sincère et beaucoup d'amour pour les lettres. Son dessein favori était de réunir dans son couvent une société d'hommes instruits. C'est pourquoi il avait adressé vocation à Zwingli. Avide d'instruction et de lecture, il supplia son nouvel ami de le diriger. « Lisez les Saintes Écritures, répondit Zwingli, et pour les mieux comprendre, étudiez Saint Jérôme. Cependant, ajouta-t-il, il arrivera, et bientôt, avec l'aide du Seigneur, que les chrétiens n'estimeront à un haut prix ni saint Jérôme, ni aucun autre docteur, mais seulement la parole de Dieu. La conduite de Gérold Seck se ressentit de ses progrès dans la foi. Il permit aux religieuses d'un couvent de femmes, dépendant d'Eisidlen, de lire la Bible en langue vulgaire, et quelques années après, Gérold Seck vint demeurer à Zurich, auprès de Zwingli, et mourir avec lui sur le champ de Cappel. Le même charme unit bientôt tendrement à Zwingli non seulement Gérold Seck, mais encore le chapelain Zink, l'excellent Exlin, Lucas et d'autres habitants de l'abbaye. Ces hommes studieux, éloignés du bruit des parties, lisaient ensemble les Écritures, les Pères de l'Église, les chefs-d'œuvre de l'Antiquité et les écrits des restaurateurs des lettres. Souvent, des amis étrangers venaient grossir ce cercle intéressant. Un jour, entre autres, Capiton arriva à Einsiedlen. Les deux anciens amis de Bâle parcouraient ensemble le couvent et ses sauvages alentours, absorbés dans leurs conversations, examinant l'Écriture et cherchant à connaître la volonté divine. Il y eut un point sur lequel ils tombèrent d'accord. Ce fut celui-ci. Le pape de Rome doit tomber. Capiton était dans ce temps plus courageux qu'il ne le fut plus tard. Repos, loisirs, livres, amis, Zwingli avait tout dans cette tranquille retraite, et il croissait en intelligence et en foi. Ce fut alors, en mai 1517, qu'il se mit à un travail qui lui fut très utile. Comme autrefois les rois d'Israël écrivaient de leurs propres mains la loi de Dieu, Zwingli copia de la sienne les épîtres de saint Paul. Il n'existait alors que les éditions volumineuses du Nouveau Testament et Zwingli voulait pouvoir le porter partout avec lui. Il apprit par cœur ses épîtres, plus tard les autres livres du Nouveau Testament, puis une partie de l'Ancien. Ainsi, son cœur s'attachait toujours plus à l'autorité souveraine de la parole de Dieu. Il ne se contentait pas de la reconnaître. Il voulait encore lui soumettre vraiment sa vie. Il entrait, peu à peu, dans des voies toujours plus chrétiennes. La tâche pour laquelle il avait été amené dans ce désert s'accomplissait. Sans doute, ce ne fut qu'à Zurich que la vie chrétienne pénétra avec puissance toute son âme, mais déjà, à Eisidlen, il fit des progrès marqués dans la sanctification. À Glaris, on l'avait vu prendre part aux divertissements du monde. À Eisidlen, il rechercha davantage une vie pure de toute souillure et de toute mondanité. Il commença à mieux comprendre les grands intérêts spirituels du peuple et il apprit peu à peu ce que Dieu voulait lui enseigner. La Providence avait eu encore d'autres vues en l'amenant à Eisidlen. Il devait voir de plus près les superstitions et les abus qui avaient envahi l'Église. L'image de la Vierge, gardée précieusement dans le monastère, avait, disait-on, le pouvoir d'opérer des miracles. Au-dessus de la porte de l'abbaye se lisait cette inscription orgueilleuse « Ici l'on trouve une pleine rémission de tous les péchés ». Une multitude de pèlerins accouraient à Eisidlen de tous les pays de la chrétienté pour mériter cette grâce par leur pèlerinage. L'église, l'abbaye, toute la vallée se remplissaient aux fêtes de la Vierge de ses dévots adorateurs. Mais ce fut surtout à la grande fête de la consécration des anges que la foule inonda l'ermitage. Des rangées de plusieurs milliers d'individus des deux sexes gravissaient la pente de la montagne qui conduit à l'oratoire en chantant des cantiques ou en roulant entre les doigts les grains de leur chapelet. Ces dévots pèlerins se pressaient dans l'église, croyant être là plus près de Dieu que partout ailleurs. Le séjour de Zwingli à Eisidlen eut, sous le rapport de la connaissance des abus de la papauté, un effet analogue à celui de Luther à Rome. Zwingli acheva à Eisidlen son éducation de réformateur. Dieu seul est la source du salut, et il l'est partout. Ce fut là ce qu'il apprit à Eisidlen, et ces deux vérités devinrent les articles fondamentaux de la théologie de Zwingli. Le sérieux qu'il avait acquis dans son âme agit bientôt en dehors. Frappé de tant de maux, il résolut de s'y opposer avec courage. Il n'hésita pas entre sa conscience et ses intérêts. Il se leva hardiment et sa parole énergique attaqua sans détour la superstition de la foule qui l'entourait. « Ne pensez pas, lui dit-il du haut de la chair, que Dieu soit dans ce temple plus qu'en aucun autre lieu de sa création. Quelle que soit la contrée de la terre que vous habitiez, Dieu vous entoure et vous entend aussi bien qu'à Notre-Dame d'Einsiedlen. Serait-ce des œuvres inutiles, de longs pèlerinages, des offrandes, des images, l'invocation de la Vierge ou des saints qui vous obtiendrait la grâce de Dieu, Qu'importe la multitude des paroles dont nous formons nos prières, qu'importe un capuchon brillant, une tête bien rasée, une robe longue et bien plissée et des mulets ornés d'or. C'est au cœur que Dieu regarde, et notre cœur est éloigné de Dieu. Mais Zwingli voulait faire plus que de s'élever contre les superstitions. Il voulait satisfaire le désir ardent d'une réconciliation avec Dieu qu'éprouvaient plusieurs des pèlerins accourus à la chapelle de Notre-Dame d'Incidlen. « Christ, criait-il comme Jean-Baptiste, dans ce nouveau désert des montagnes de Judée, Christ qui s'est offert une fois sur la croix, et l'hostie et la victime qui satisfait jusque dans toute l'éternité pour les péchés de tous les fidèles. » Ainsi Zwingli avançait. Le jour où l'on entendit une prédication si courageuse dans le sanctuaire le plus vénéré de la Suisse, l'étendard dressé contre Rome commença à paraître plus distinctement au-dessus de ces montagnes et il y eut comme un tremblement de réformation qui en ébranla les fondements. En effet, un étonnement universel saisissait la foule à l'ouïe des discours du prêtre éloquent. Les uns s'éloignaient avec horreur, d'autres hésitaient entre la foi de leur père et cette doctrine qui devait assurer leur paix. Plusieurs allaient à Jésus, qu'on leur annonçait être remplis de douceur, et remportaient les cierges qu'ils étaient venus présenter à la Vierge. Une foule de pèlerins retournaient dans leur patrie, annonçant partout ce qu'ils avaient ouï à Incidlen, « Christ seul sauve, et il sauve partout ». Souvent, des troupes, étonnées de ce qu'elles entendaient raconter, rebroussaient chemin sans avoir terminé leur pèlerinage. Les adorateurs de Marie diminuaient de jour en jour. C'était de leurs offrandes que se composait à peu près tout le revenu de Zwingli et de Gerold Steck. Mais ce hardi témoin de la vérité était heureux de s'appauvrir pour enrichir spirituellement les âmes. Lors des fêtes de la Pentecôte, l'an 1518, au milieu des nombreux auditeurs de Zwingli, se trouvait un homme savant, d'un caractère doux et d'une active charité, Gaspard Hédion, docteur en théologie à Bâle. Zwingli prêchait sur l'histoire du paralytique, Évangile de Luc, chapitre 5, versets 16 à 39, où se trouve cette déclaration du Seigneur, « Le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés. » Parole bien propre à frapper la foule réunie dans le temple de la Vierge. Le sermon du prédicateur remuait, ravissait, embrasait l'assemblée et en particulier le docteur de Bâle. Longtemps après, Hédion en exprimait encore toute son admiration. « Que ce discours, disait-il, est beau, profond, grave, complet, pénétrant, évangélique et, comme il rappelle, l'énergeia, la force des anciens docteurs. » Dès cet instant, Hédion admira et aima Zwingli. Il eût voulu aller à lui, lui ouvrir son cœur. Il errait autour de l'abbaye et n'osait avancer, retenu, dit-il, par une timidité superstitieuse. Il remonta à cheval et s'éloigna lentement de Notre-Dame, tournant la tête vers les lieux qui renfermaient un si grand trésor et emportant dans son cœur les regrets les plus vifs. Ainsi prêchait Zwingli, avec moins de force sans doute, mais avec plus de modération et non moins de succès que Luther. Il ne précipitait rien, il heurtait moins les esprits que ne le faisait le réformateur saxon. Il attendait tout de la puissance de la vérité. Il agissait avec la même sagesse dans ses rapports avec les chefs de l'Église. Loin de se montrer immédiatement leur adversaire, comme Luther, il demeura longtemps leur ami. Ceci le ménageait extrêmement, non seulement à cause de sa science et de ses talents. Luther eut les mêmes droits aux égards des évêques de Mayence et de Brandebourg, mais surtout à cause de son attachement au parti politique du pape et de l'influence que possédait un homme tel que Zwingli dans un État républicain. En effet, divers cantons, dégoûtés du service du pape, étaient prêts de rompre avec lui, mais les légats se flattaient d'en retenir plusieurs en gagnant Zwingli comme il gagnait Erasme par des pensions et des honneurs. Les légats Ennius et Pussy allaient souvent alors à Incidlen, d'où, vu la proximité des cantons démocratiques, leurs négociations avec ces États étaient plus faciles. Mais Zwingli, loin de sacrifier la vérité aux demandes et aux offres de Rome, ne laissait passer aucune occasion de défendre l'Évangile. Le fameux Schinner, qui avait alors des désagréments dans son diocèse, passa quelque temps à Incidlen. « Toute la papauté, dit un jour Zwingli, repose sur de mauvais fondements. Mettez la main à l'œuvre, rejetez les erreurs et les abus, ou bien vous verrez s'écrouler tout l'édifice avec un effroyable vacarme. » Il parlait avec la même franchise au légat Pussy. Quatre fois il revint à la charge. « Avec l'aide de Dieu, lui dit-il, je continuerai à prêcher l'Évangile, et cette prédication ébranlera Rome. » Puis il lui exposa ce qu'il avait à faire pour sauver l'Église. Pussy promit tout, mais ne tint rien. Zwingli déclara qu'il renonçait à la pension du pape. Le légat le supplia de la garder, et Zwingli, qui ne se proposait point alors de se mettre en hostilité ouverte avec le chef de l'Église, consentit encore pendant 3 ans à la recevoir. « Mais ne pensez pas, ajouta-t-il, que pour l'amour de l'argent, je retranche de la vérité une seule syllabe. » Pussy, alarmé, fit nommer le réformateur chapelain acolyte du pape. C'était un acheminement à de nouveaux honneurs. Rome voulait effrayer Luther par des jugements et gagner Zwingli par des grâces. Elle lançait à l'un ses excommunications et jetait à l'autre son or et ses splendeurs. C'était 2 voies diverses pour arriver au même but et faire taire les lèvres hardies qui osaient, malgré le pape, proclamer en Allemagne et en Suisse la parole de Dieu. La dernière était la plus habile, mais ni l'une ni l'autre ne réussirent. Les âmes affranchies des prédicateurs de la vérité se montrèrent également inaccessibles aux vengeances et aux faveurs. Un autre prélat suisse, Hugues de Landenberg, évêque de Constance, donna alors quelques espérances à Zwingli. Il ordonna une visite générale des églises, mais Landenberg, homme sans caractère, se laissait conduire un jour par Faber, son vicaire, un autre jour par une méchante femme, à l'empire de laquelle il ne savait échapper. Il semblait quelquefois honorer l'Évangile, et pourtant, si on l'annonçait avec courage, on n'était plus à ses yeux qu'un perturbateur. Il était de ces hommes trop communs dans cette Luther, et reconnaître qu'il était inutile d'invoquer le secours des chefs de l'Église, et que la seule voie pour restaurer le christianisme était de se comporter en fidèle docteur de la parole de Dieu. L'occasion s'en offrit bientôt. Sur les hauteurs du Saint-Gothard, dans ces passages élevés qu'on y a frayés avec peine à travers les rocs escarpés qui séparent la Suisse de l'Italie, s'avançait en août 1518 un moine franciscain. Sorti d'un couvent italien, il portait avec lui des indulgences papales qu'il avait été chargé de vendre aux bons chrétiens des ligues helvétiques. De brillants succès, remportés sous 2 papes précédents, l'avaient illustré dans ce honteux commerce. Des compagnons, destinés à faire valoir la marchandise qu'il allait débiter, passaient avec lui ses neiges et ses glaces aussi anciennes que le monde. Cette caravane avide d'une apparence assez misérable, ne ressemblant pas mal à une bande d'aventuriers qui cherchent à butiner, marchant en silence au bruit de ces torrents fougueux qui forment le Rhin, la Reuss, la Hare, le Rhône, le Tessin et d'autres fleuves, méditait la spoliation des simples peuples de l'Helvétie. Samson, c'était le nom du franciscain, et sa compagnie arrivèrent d'abord dans Uri. Ils y commencèrent leur trafic. Ils en eurent bientôt fini avec ces pauvres campagnards et passèrent dans le canton de Schwyz. C'est là que se trouvait Zwingli et que devait s'engager le combat entre ses 2 serviteurs de 2 maîtres bien différents. « Je puis pardonner tous les péchés, disait dans Schwyz le moine italien, le Tetzel de la Suisse. Le ciel et l'enfer sont soumis à mon pouvoir, et je vends les mérites de Jésus-Christ à quiconque veut les acheter en payant, comptant, une indulgence. » Zwingli apprend ses discours, et son zèle s'enflamme. Il prêche avec force. « Jésus-Christ, dit-il, le Fils de Dieu, a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » N'est-ce donc pas une audacieuse folie et une témérité insensée que de dire au contraire « Achète des lettres d'indulgence, cours à Rome, donne aux moines, sacrifie aux prêtres, si tu fais ces choses, je t'absoudrai de tes péchés. » Jésus-Christ est la seule offrande. Jésus-Christ est le seul sacrifice. Jésus-Christ est le seul chemin. Partout à Schwyz, on appela bientôt Samson un fripon et un séducteur. Il prit le chemin de Zoug et, pour le moment, les 2 champions se manquèrent. À peine Samson s'était-il éloigné de Schwyz qu'un citoyen de ce canton, d'un esprit distingué et qui fut plus tard secrétaire d'État, Stapfer, tomba avec sa famille dans une grande détresse. « Hélas, dit-il en s'adressant à Zwingli dans son angoisse, je ne sais comment subvenir à ma faim et à la faim de mes pauvres enfants. » Zwingli savait donner quand Rome savait prendre, et il était aussi prêt à pratiquer les bonnes œuvres qu'à combattre ceux qui enseignaient que par elles on acquiert le salut. Chaque jour, il apportait à Sapfer d'abondants secours. « C'est Dieu, disait-il, désireux de ne garder pour lui aucune gloire, c'est Dieu qui engendre la charité dans le fidèle et lui donne tout à la fois la pensée, la résolution et l'œuvre elle-même. Tout ce que le juste fait de bien, c'est Dieu qui le fait par sa propre puissance. » Stapfer lui demeura attaché toute sa vie et 4 ans plus tard, devenu secrétaire d'État de Schwitz et se sentant poussé par des besoins plus élevés, il se tourna vers Zwingli et lui dit avec noblesse et candeur « Puisque vous avez pourvu à mes besoins temporels, combien plus attendrai-je maintenant de vous de quoi apaiser la faim de mon âme ?» Les amis de Zwingli se multipliaient. Ce n'était pas seulement à Glaris, à Bâle et à Schwitz qu'il se trouvait des âmes en accord avec la sienne. Dans Uri, c'était le secrétaire d'État Schmitt, à Zug, Colin, Müller et Werner Steiner, son ancien compagnon d'armes à Marignan, à Lucerne, Xylotecht et Kilchmeyer, Wittenbach à Bienne et beaucoup d'autres en d'autres lieux encore. Mais le curé d'Eisidlen n'avait pas d'amis plus dévoués qu'Oswald Mikonius. Oswald avait quitté Bâle en 1516 pour diriger à Zurich l'école de la cathédrale. Il ne se trouvait alors dans cette ville ni savant ni école savante. Oswald y travaillait avec quelques hommes bien disposés et entre autres avec Hüttinger, notaire du pape, à faire sortir de l'ignorance le peuple zucchérois et à l'initier à la littérature de l'Antiquité. En même temps, il défendait l'immuable vérité de la Sainte Écriture et déclarait que, si le pape ou l'empereur commandait des choses contraires à l'Évangile, l'homme était tenu d'obéir à Dieu seul, qui est au-dessus de l'empereur et du pape. Livre 8, chapitre 6. Élection à la cathédrale. Laurent Fable. Accusation. Confession de Zwingli. Les desseins de Dieu se développent. Adieu à Eisidlen. Arrivée à Zurich. Déclaration courageuse de Zwingli. Première prédication. Effet. Opposition. Caractère de Zwingli. Goût pour la musique. Ordre de la journée. Il y avait 7 siècles que Charlemagne avait attaché un collège de chanoines à cette même cathédrale dont Oswald Mikonius présidait alors l'école. Ces chanoines, déchus de leur institution première et voulant savourer leurs bénéfices dans les douceurs d'une vie oisive, élisaient un prêtre qu'ils chargeaient de la prédication et de la cure des âmes. Cette place devint vacante quelque temps après l'arrivée d'Oswald. Celui-ci pensa aussitôt à son ami. Quel gain ce serait pour Zurich ? L'extérieur de Zwingli prévenait en sa faveur. C'était un bel homme, d'un abord gracieux, d'un commerce agréable. Son éloquence l'avait déjà rendu célèbre, et il brillait par l'éclat de son esprit au milieu de tous les confédérés. Mikonius parla de lui au prévôt du chapitre, Félix Frey, que la bonne mine et les talents de Zwingli prévenaient pour lui, à Hüttinger, vieillard qui jouissait d'une grande considération, et au chanoine Hoffmann, homme d'un caractère droit et franc, qui, ayant longtemps prêché lui-même contre le service étranger, était bien disposé en faveur d'Ulrich. D'autres zucchérois avaient en diverses occasions entendu Zwingli à Eisidlen et en étaient revenus pleins d'admiration. L'élection du prédicateur de la cathédrale mit bientôt tout le monde en mouvement dans Zurich. On s'agitait en sens divers. Plusieurs travaillaient nuit et jour à faire élire le prédicateur éloquent de Notre-Dame des Ermites. Mikonius en informa son ami. « Mercredi prochain, répondit Zwingli, j'irai dîner à Zurich et nous parlerons de tout cela. » Il arriva en effet. Se trouvant en visite chez un chanoine, « Pourriez-vous, lui dit celui-ci, venir au milieu de nous pour y prêcher la parole de Dieu ?»« Je le puis, répondit-il, mais je ne viendrai que si l'on m'appelle. » Puis il retourna dans son abbaye. Cette visite répandit l'alarme dans le camp de ses ennemis. On pressa plusieurs prêtres de se présenter pour la place vacante. Un souabe, nommé Laurent Fable, prononça même un sermon d'épreuve et le bruit se répandit qu'il était élu. Il est donc bien vrai, dit Zwingli en l'apprenant, que nul n'est prophète en son pays, puisqu'on préfère un Souabe à un Suisse. Je sais ce que valent les applaudissements du peuple. Zwingli reçut aussitôt après une lettre du secrétaire du cardinal Schinner qui lui apprenait que l'élection n'avait pas eu lieu. Mais la fausse nouvelle qui lui avait d'abord été donnée aiguillonna néanmoins le curé d'Eisidlen. Sachant qu'un homme aussi indigne que ce fable aspirait à cette place, il la désira davantage pour lui-même et en écrivit à Mykonius. Oswald lui répondit le jour suivant « Fable restera toujours fable. Ces messieurs ont appris qu'il est père de 6 garçons et déjà pourvu de je ne sais combien de bénéfices. » Les ennemis de Zwingli ne se tinrent pas pour battus. Tout le monde, il est vrai, s'accordait à porter au nu l'éclat de ses connaissances. Mais quelques-uns disaient « Il aime trop la musique. » D'autres « Il aime le monde et les plaisirs. » D'autres encore « Il a été anciennement trop lié avec des gens d'une conduite légère. » Il se trouva même un homme qui lui reprocha un cas de séduction. Zwingli n'était pas sans tâche, et quoique supérieur aux ecclésiastiques de son temps, il s'était laissé entraîner plus d'une fois dans les premières années de son ministère au penchant de la jeunesse. On ne saurait facilement comprendre l'influence que peut exercer sur une âme l'atmosphère corrompue dans laquelle elle vit. Il y avait dans la papauté et parmi les prêtres des désordres établis, admis et autorisés comme conformes aux lois de la nature. Une parole d'Énéas Silvius, depuis pape sous le nom de Pie II, nous donne une idée du triste état des mœurs publiques à cette époque. Nous la rapportons en note. Non esse qui vegesimum annum excessit ni virginem titigerit, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire que la virginité excède un certain nombre d'années. Le désordre était devenu l'ordre généralement admis. Oswald déployait une inconcevable activité en faveur de son ami. Il employait toutes ses forces à le justifier et, heureusement, il y parvenait. Il allait vers le bourgmestre, Roust, vers Hoffmann, vers Frey, vers Huttinger. Il louait la probité, l'honnêteté, la pureté de la conduite de Zwingli et affermissait les Zurichois dans l'opinion favorable qu'ils avaient du curé d'Einsiedeln. On ajoutait peu de foi au discours des adversaires. Les hommes les plus influents disaient que Zwingli serait évangéliste à Zurich. Les chanoines le disaient aussi, mais à voix basse. « Espère !» lui écrivait Oswald, le cœur ému, « car j'espère !» Néanmoins, il lui fit connaître les accusations de ses ennemis. Bien que Zwingli ne fût pas encore devenu tout à fait un nouvel homme, il était de ces âmes dont la conscience est réveillée, qui peuvent tomber dans le mal, mais qui n'y tombent jamais sans résistance et sans remords. Souvent, il avait formé le dessein de vivre dans la sainteté, seul de son espèce au milieu du monde. Mais quand il se vit accusé, il ne voulut pas se vanter d'être sans péché. « N'ayant personne, écrivit-il au chanoine Huttinger, pour marcher avec moi dans les résolutions que j'avais prises, plusieurs même de mes alentours s'en scandalisant. Hélas, je suis tombé, et comme le chien dont parle Saint-Pierre, je suis retourné à ce que j'avais vomi. » Ah, Dieu sait avec quelle honte et quelle angoisse j'ai tiré ces fautes des profondeurs de mon cœur et je les ai exposées à ce grand Dieu à qui je confesse pourtant ma misère bien plus volontiers qu'à l'homme mortel. Mais si Zwingli se reconnut pécheur, il se justifia en même temps des inculpations les plus odieuses qui lui étaient faites. Il déclara qu'il avait toujours rejeté loin de lui la pensée même de monter dans un lit adultère ou de séduire l'innocence, tristes excès trop ordinaires alors. « J'appelle ici en témoignage, dit-il, tous ceux avec lesquels j'ai vécu. » Le 11 décembre, l'élection eut lieu. Zwingli fut nommé par une majorité de 17 voix sur 24. Il était temps que la réformation commençât pour la Suisse. L'instrument d'élite que la Providence divine avait préparé pendant 3 ans dans la retraite d'Einsiedeln était prêt. Il devait être transporté quelque part. Dieu qui avait choisi la nouvelle université de Wittenberg, située au centre de l'Allemagne, sous la protection du plus sage des princes, pour y appeler Luther, choisit dans l'Helvétie la cité de Zurich, regardée comme la tête de la Confédération, pour y placer Zwingli. Là, il fallait se trouver en rapport non seulement avec l'un des peuples les plus intelligents, les plus simples, les plus promptes et les plus forts de la Suisse, mais encore avec tous les cantons qui se groupaient autour de cet antique et puissant État. La main qui avait été prendre un jeune pâtre du Mont Sentis pour le conduire dans l'école de Wesen l'établissait maintenant, puissante en œuvre et en parole, à la face de tous pour régénérer son peuple. Zurich allait devenir un foyer de lumière pour l'Helvétie. Ce fut pour Eisidlen un jour de joie et de douleur que celui où l'on apprit la nomination de Zwingli. Le cercle qui s'y était formé allait être détruit par la retraite du plus précieux de ses membres, et qui sait si la superstition n'allait pas rentrer en possession de cet antique lieu de pèlerinage. Le Conseil d'État de Schwitz fit parvenir à Ulrich l'expression de ses sentiments en l'appelant « révérend, savant, très gracieux seigneur et bon ami ». Donnez-nous au moins vous-même un successeur digne de vous, dit à Zwingli Gerold Steck, désolé. J'ai pour vous, répondit-il, un petit lion simple et prudent, un homme initié dans les mystères de la science sainte. Je veux l'avoir, dit aussitôt l'administrateur. C'était Léon Judas, cet homme à la fois doux et intrépide avec lequel Zwingli avait été intimement uni à Bâle. Léon accepta cette vocation qui le rapprochait de son cher Ulrich. Celui-ci embrassa ses amis, quitta la solitude d'Einsiedeln, arriva dans ces lieux délicieux où s'élève, riante et animée, la ville de Zurich, avec son enceinte de coteaux qui recouvre des vignes, cornes des prairies et des vergers que couronnent des forêts et au-dessus desquelles apparaissent les plus hautes sommités de l'Albis. Zurich, le centre des intérêts politiques de la Suisse et où se réunissaient souvent les hommes les plus influents de la nation, était le lieu le plus propre pour agir sur l'Helvétie et répandre dans tous les cantons les semences de la vérité. Aussi les amis des lettres et de la Bible saluèrent-ils par des acclamations la nomination de Zwingli. À Paris, en particulier, les étudiants suisses, qui étaient très nombreux, tressaillirent de joie à cette nouvelle. Mais si Zwingli avait à Zurich la perspective d'une grande victoire, il devait s'y attendre aussi à un rude combat. Glaréan lui écrivit de Paris « Je prévois que votre science suscitera une grande haine, mais ayez bon courage et, comme Hercule, vous dompterez les monstres. » Ce fut le 27 décembre 1518 que Zwingli arriva à Zurich. Il descendit à l'hôtel d'Einsiedeln. On lui fit un cordial et honorable accueil. Le chapitre s'assembla aussitôt pour le recevoir et l'invita à se rendre dans son sein. Félix Frey présidait. Les chanoines, amis ou ennemis de Zwingli, siégeaient indistinctement autour de leur prévôt. Il régnait de l'agitation dans l'assemblée. Chacun sentait, sans s'en rendre compte, peut-être, combien était sérieux le commencement de ce ministère. On convint d'exposer au jeune prêtre, dont on craignait l'esprit novateur, les devoirs les plus importants de sa charge. « Vous mettrez tous vos soins, lui dit-on gravement, à faire rentrer les revenus du chapitre, sans en négliger le moindre. Vous exhorterez les fidèles, soit du haut de la chaire, soit au confessionnal, à payer les redevances et les dîmes, et à montrer par leurs offrandes qu'ils aiment l'Église. Vous vous appliquerez à multiplier les revenus qui proviennent des malades, des sacrifices et, en général, de tout acte ecclésiastique. » Le chapitre ajouta « Quant à l'administration des sacrements, à la prédication et à la présence au milieu du troupeau, ce sont aussi des devoirs du prêtre. Cependant, vous pouvez vous faire remplacer par un vicaire à ces divers égards, et surtout pour la prédication. Vous ne devez administrer les sacrements qu'aux notables, et après en avoir été requis, il vous est interdit de le faire sans distinction de personne. » Quelle règle pour Zwingli ! De l'argent ! De l'argent ! Encore de l'argent ! Est-ce donc pour cela que Christ a établi le ministère ? Cependant, la prudence modère son zèle. Il sait que l'on ne peut à la fois déposer en terre la semence, voir l'arbre croître et en recueillir les fruits. Sans donc s'expliquer sur ce qu'on lui imposait, Zwingli, après avoir humblement témoigné sa reconnaissance pour le choix honorable dont il avait été l'objet, annonça ce qu'il comptait faire. « La vie de Jésus, dit-il, a été trop longtemps cachée au peuple. Je prêcherai surtout l'Évangile, selon saint Matthieu, chapitre après chapitre, en suivant le sens du Saint-Esprit, en puisant uniquement aux sources de l'Écriture, en la sondant, en la comparant avec elle-même et en recherchant l'intelligence par de constantes et ardentes prières. C'est à la gloire de Dieu, à la louange de son Fils unique, au véritable salut des âmes et à leur enseignement dans la vraie foi que je consacrerai mon ministère. » Un langage si nouveau fit une profonde impression sur le chapitre. Quelques-uns en témoignèrent leur joie, mais la plupart firent éclater leur douleur. « Cette manière de prêcher est une innovation, » s'écrièrent-ils. « Cette innovation mènera bientôt à une autre, et où s'arrêtera-t-on » Le chanoine Hoffmann, surtout, crut devoir prévenir les funestes effets d'une élection qu'il avait lui-même sollicitée. « Cette explication de l'Écriture, » dit-il, « sera plus nuisible qu'utile au peuple. « Ce n'est pas une nouvelle manière, » répondit Zwingli. « C'est l'ancienne. Rappelez-vous les homélies de saint Chrysostome sur saint Matthieu et de saint Augustin sur saint Jean. Au reste, je parlerai avec modestie et ne donnerai à personne sujet de se plaindre. » Ainsi Zwingli abandonnait l'usage exclusif des fragments d'évangile établis depuis Charlemagne, réintégrant la Sainte Écriture dans ses antiques droits. Il rattachait la Réformation dès le commencement de son ministère au temps primitif du christianisme et préparait pour les âges futurs une étude plus profonde de la parole de Dieu. Mais il y a plus. Cette position ferme et indépendante qu'il prenait vis-à-vis de l'Église annonçait une œuvre nouvelle. Sa stature de réformateur se dessinait hardiment aux yeux de son peuple et la réforme avançait. Hoffmann, ayant échoué dans le chapitre, adressa une requête écrite au prévôt pour qu'il défendît à Zwingli d'ébranler le peuple dans ses croyances. Le prévôt fit venir le nouveau prédicateur et lui parla avec beaucoup d'affection. Mais nulle puissance humaine ne pouvait fermer ses lèvres. Le 31 décembre, il écrivit au conseil de Glaris qu'il renonçait entièrement à la charge d'âme qu'on lui avait jusqu'alors conservée, et il fut tout à Zurich et à l'œuvre que Dieu lui préparait dans cette ville. Le samedi premier jour de l'an 1519, Zwingli, ayant ce jour-là même 35 ans accomplis, monta dans la chaire de la cathédrale. Une grande foule, désireuse de voir cet homme déjà célèbre et d'entendre ce nouvel évangile, dont chacun commençait à parler, remplissait le temple. « C'est à Christ, dit Zwingli, que je veux vous conduire. À Christ, vraie source du salut, sa divine parole est la seule nourriture que je veuille donner à votre vie et à votre cœur. » Puis il annonça que dès le jour suivant, premier dimanche de l'année, il commencerait à expliquer l'évangile selon saint Matthieu. Le lendemain, le prédicateur et un auditoire plus nombreux encore se trouvaient à leur poste. Zwingli ouvrit l'évangile, ce livre depuis si longtemps fermé, et en lut la première page, parcourant l'histoire des patriarches et des prophètes, premier chapitre de saint Matthieu. Il l'exposa de telle manière que chacun, étonné et ravi, s'écriait « On n'a jamais entendu rien de pareil !» Il continua à expliquer ainsi saint Matthieu d'après le texte grec. Il montrait comment toute la Bible trouvait à la fois son explication et son application dans la nature même de l'homme. Exposant dans un langage facile les plus hautes vérités de l'Évangile, sa prédication allait à toutes les classes, aux sages et aux savants comme aux ignorants et aux simples. Il exaltait les miséricordes infinies de Dieu le Père et il conjurait tous ses auditeurs de mettre leur confiance uniquement en Jésus-Christ comme dans le seul Sauveur. En même temps, il les appelait à la repentance avec une grande énergie. Il attaquait avec force les erreurs qui dominaient parmi son peuple. Il s'élevait avec intrépidité contre le luxe, l'intempérance, l'éclat des vêtements, l'oppression des pauvres, l'oisiveté, le service étranger et les pensions des princes. En chair, dit l'un de ses contemporains, il ne ménageait personne, ni pape, ni empereur, ni roi, ni duc, ni prince, ni seigneur, ni même les confédérés. Toute sa force et toute la joie de son cœur étaient en Dieu. Aussi exhortait-il toute la ville de Zurich à se confier uniquement en lui. Jamais on n'avait vu un homme parler avec tant d'autorité, dit Oswald Mikonius, qui suivait avec joie et grande espérance les travaux de son ami. L'évangile ne pouvait être annoncé en vain dans Zurich. Une multitude, toujours plus nombreuse d'hommes de toutes les classes et surtout d'hommes du peuple, accourait pour l'entendre. Plusieurs Zurichois avaient cessé de fréquenter le culte public. « Je ne retire aucun profit des discours de ces prêtres », disait souvent Fuselin, poète historien et conseiller d'État. « Ils ne prêchent pas les choses du salut, car ils ne les comprennent pas. Je ne sais voir en eux que convoitise et volupté. » Henri Rochelin, trésorier d'État, homme qui lisait assidûment l'Écriture, pensait de même. « Les prêtres, disait-il, se sont réunis par milliers au concile de Constance pour y brûler le meilleur de tous. » Ces hommes distingués, attirés par la curiosité, vinrent entendre le premier discours de Zwingli. On pouvait lire sur leur visage l'émotion avec laquelle ils suivaient l'orateur. « Gloire soit à Dieu, » dirent-ils en sortant. « Celui-ci est un prédicateur de la vérité. Il sera notre Moïse pour nous sortir des ténèbres d'Égypte. » Dès ce moment, ils devinrent amis intimes du réformateur. « Puissant de ce monde, » disait Fuselin, « cessez de proscrire la doctrine de Christ. Christ, le Fils de Dieu, ayant été mis à mort, des pécheurs se levèrent. Et maintenant, si vous faites périr les prédicateurs de la vérité, vous verrez paraître à leur place des vitriers, des meuniers, des potiers, des fondeurs, des cordonniers, des tailleurs qui enseigneront avec puissance. » Il n'y eut d'abord dans Zurich qu'un cri d'admiration. Mais le premier moment d'enthousiasme passé, les adversaires reprirent courage. Des hommes honnêtes que la crainte d'une réformation épouvantait se détachèrent peu à peu de Zwingli. La violence des moines, un instant voilée, reparut, et le collège des chanoines retentit de plaintes. Zwingli se montrait inébranlable. Ses amis, en contemplant son courage, croyaient voir reparaître devant eux un homme des temps apostoliques. Parmi ses ennemis, les uns riaient et plaisantaient, d'autres faisaient entendre d'outrageantes menaces, mais il endurait tout avec la patience d'un chrétien. « Si l'on veut gagner les méchants à Jésus-Christ, avait-il coutume de dire, il faut fermer les yeux sur beaucoup de choses. » Parole admirable qui ne doit pas être perdue. Son caractère, sa manière d'être avec tous les hommes, contribuait autant que ses discours à gagner les cœurs. Il était à la fois un vrai chrétien et un vrai républicain. L'égalité de tous les hommes n'était pas pour lui une phrase banale. Écrite dans son cœur, elle se retrouvait dans sa vie. Il n'y avait ni cet orgueil pharisaïque, ni cette grossièreté monacale qui choquent également les simples et les sages du monde. On se sentait attiré vers lui et à l'aise dans sa conversation. Fort et puissant en chair, il était affable envers tous ceux qu'il rencontrait dans les rues et sur les places publiques. Souvent, on le voyait dans les lieux où se réunissaient les tribus, les corps de métier, exposer aux bourgeois de la cité les principaux points de la doctrine chrétienne ou converser familièrement avec eux. Il accueillit avec la même cordialité les paysans et les patriciens. Il invitait les gens de la campagne à dîner, dit l'un de ses plus violents ennemis, se promenait avec eux, leur parlait de Dieu, faisait entrer le diable dans leur cœur et ses écrits dans leur poche. Il fit même si bien que les notables de Zurich visitaient ces paysans, leur donnaient à boire, allaient avec eux par la ville et leur témoignaient toutes sortes d'attentions. Il continua à cultiver la musique avec modestie, dit Bullinger. Néanmoins, les adversaires de l'Évangile en profitèrent et l'appelèrent l'évangélique joueur de flûte et de luth. Faber lui ayant un jour... reproché ce goût. « Mon cher Faber, lui répondit Zwingli avec une noble candeur, tu ne sais pas ce qu'est... Tu ne sais pas ce que c'est que la musique. J'ai, il est vrai, appris à jouer du luth, du violon et d'autres instruments, et ils me servent à faire taire les petits-enfants. Mais tu es trop saint, toi, pour la musique. Ne sais-tu pas que David était un bon joueur de harpe et qu'il chassait ainsi de Saul l'esprit malin? Ah, si tu connaissais le son du luth céleste! L'esprit malin de l'ambition et de l'amour des richesses qui te possède sortirait aussi de toi. » Peut-être y eut-il ici un faible dans Zwingli. Cependant, c'était dans un esprit de débonnaireté et de liberté évangélique qu'il cultivait cet art que la religion a constamment associé à ses plus sublimes élans. Il a composé la musique de quelques-unes de ses poésies chrétiennes et il ne craignait pas quelquefois d'amuser avec son luth les plus petits du troupeau. Il se conduisait avec la même débonnaireté envers les pauvres. Il mangeait et buvait, dit un de ses contemporains, avec tous ceux qui l'invitaient. Il ne méprisait personne. Il était plein de compassion pour les pauvres, toujours ferme et toujours joyeux dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Aucun mal ne l'épouvantait. Sa parole était en tout temps pleine de force et son cœur rempli de consolation. Ainsi grossissait la popularité de Zwingli, assis tour à tour à la table du peuple et au festin des grands, comme jadis son maître en faisant partout l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Aussi était-il infatigable à l'étude. Depuis le matin jusqu'à 10 heures, il lisait, il écrivait, il traduisait. L'hébreu était surtout alors l'objet de son application. Après le dîner, il écoutait ceux qui avaient quelque chose à lui raconter ou quelques conseils à lui demander. Il se promenait avec ses amis et il visitait ses ouailles. À 2 heures, il se remettait au travail. Il faisait une petite promenade après souper et écrivait ensuite des lettres qui le retenaient souvent jusqu'à minuit. Il travaillait toujours debout et ne permettait qu'on le détournât que pour des causes très graves. Mais il fallait plus que les travaux d'un seul homme. Un certain Lucien arriva un jour chez lui avec des écrits du réformateur allemand. Renan savant fixé alors à Bâle et infatigable propagateur des écrits de Luther en Suisse, envoyait cet homme à Zwingli. Renan avait compris que le colportage de livres était un puissant moyen pour répandre la doctrine de l'Évangile. Lucien avait parcouru presque toute la Suisse et y connaissait tout le monde. « Voyez, disait Renan à Zwingli, si ce Lucien possède assez de prudence et d'habileté, s'il en est ainsi qu'il porte de ville en ville, de bourg en bourg, de village en village, et même de maison en maison, parmi les Suisses, les écrits de Luther, et en particulier l'exposition de la prière du Seigneur, écrite pour les laïcs. Plus il est connu, plus il trouvera d'acheteurs. Mais il faut prendre garde qu'il ne colporte pas d'autres livres, car s'il n'a que ceux de Luther, il les vendra d'autant mieux. » Beaucoup de familles en Suisse virent ainsi quelques rayons de lumière pénétrer sous leur humble toit. Il y a pourtant un livre que Zwingli eût dû faire colporter avant ceux de Luther. C'est l'Évangile de Jésus-Christ.